Merci à vous d'être venu de Liège. Et voilà, on est ravis de vous accueillir et de vous écouter.
Merci beaucoup à vous. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Mon nom est Pascal Detrault, donc ça fait 20 ans que je réfléchis aux questions d'évaluation de la qualité de l'enseignement. Puisque ça fait 20 ans que dans mon institution, l'enseignement est évalué via la vie des étudiants. J'ai fait ma thèse sur le sujet il y a maintenant quelques bonnes années. Et pour le moment, je co-dirige un centre qui s'appelle l'Institut de formation et de recherche en enseignement supérieur, qui est en fait un centre censé faire émuler, je pense qu'on y arrive plutôt pas mal, la pédagogie universitaire au sein de mon institution. On va commencer peut-être juste par s'entendre sur ce qu'on appelle évaluation. Et vous allez voir que la définition est très large, celle qui servira de cadre dans ce qu'on va faire ici. L'évaluation, c'est la prise d'information qui amène à un jugement, qui lui-même amène à une décision. D'accord ? Définition extrêmement large. Alors vous allez voir que par mimétisme, je vais essayer de jouer le rôle de l'enseignant et vous, le rôle du public. Ben là, je suis en train de vous évaluer. Donc je suis en train d'évaluer la qualité de mon enseignement. Parce que je vous regarde, je vois si vous êtes en train de relever votre courrier électronique, si vous êtes avec moi, si vous regardez votre GSM. Je prends de l'information sur laquelle j'ai un jugement, c'est bien, ils ont l'air d'écouter, en même temps c'est normal, ça fait 30 secondes, ok, je peux continuer et aller un petit peu plus loin. Si ce n'était pas le cas, et ça pourrait arriver, parce que vous êtes dans un contexte institutionnel où à un moment donné vous êtes très rébarbatif par rapport à la question du jour, parce qu'on vient de vous énerver avec une obligation quelconque, et vous seriez peut-être dans une attitude beaucoup plus fermée, ben, ça vaudrait peut-être la peine que je vous pose la question, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas avec moi? Est-ce qu'il y a un problème? Comment est-ce qu'on peut aménager les choses? Donc c'est une première technique, tout ça, vous la mettez en place, j'en suis sûr, tous et toutes, mais c'est une première technique pour évaluer ce qui se passe dans votre enseignement pour essayer d'améliorer les choses. Par ailleurs, vous êtes en train de m'évaluer. Et donc, ce n'est pas inintéressant à savoir non plus. D'accord ? Vous êtes en train de prendre de l'information sur ce que je dis pour vous dire, ok, j'engage une démarche cognitive par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, information, jugement, ça a l'air cool, vrai. Mais si ce n'était pas cool et que vous n'avez pas envie d'y aller, vous feriez autre chose. Et vos étudiants, en tout cas chez nous, n'hésitent pas à sortir parfois de l'auditoire quand ils en ont un peu marre de ce que vous leur racontez. Ce n'est pas insignifiant. Si à un moment donné, je m'assieds devant vous sur une table et pas derrière une chaise où il y a des chances que la plupart d'entre vous ne me verront pas, c'est aussi, si j'ai des gestes d'attitude plutôt avenante, plutôt ouverte, c'est aussi pour que ce jugement que vous ayez sur moi-même vous dise, on va peut-être, j'espère pour vous, j'espère pour moi, passer un bon moment. Et si j'étais renfrogné au bout de ma chaise en train de lire des notes, là au bout, sans doute que vous direz, ouais, c'est bon, il va falloir s'accrocher. Donc on est toujours dans ce rapport d'évaluation, et je crois que c'est important de rappeler ça comme contexte général. Toujours dans la même optique de quels sont les outils, les éléments qu'on peut mettre en place pour évaluer la qualité des enseignements, je vais vous proposer tout de suite une petite mise en bouche pour ceux qui ont un GSM connecté, un ordinateur connecté, ou quoi que ce soit. Je vous demande simplement d'aller sur l'adresse www.wooclap, c'est une application hein, que vous pouvez utiliser vous-même dans vos cours.com, et de taper ppt-intro après le slash. Et normalement, si vous faites ça, vous allez, si tout se passe bien, avoir une question qui est, quelle question vous posez-vous au sujet de l'évaluation des enseignements? Est-ce que vous avez ça? Si vous ne l'avez pas, je me connecterai moi-même pour regarder pourquoi. Vous l'avez? Donc vous pouvez y répondre. Sur mon application, je vois qui est en train de, enfin, combien de personnes sont en train de répondre. Alors c'est une première manière d'évaluer ce que je vais dire, parce que finalement, si les questions que vous posez, ne sont pas du tout prévues dans mon exposé, on a un problème. On a un problème entre les attentes que vous avez et la manière dont je vais y répondre. Alors c'est pas grave, j'ai de l'expertise, je pourrais rebondir sans doute, ou en tout cas essayer de contourner le problème en apportant des éléments de réponse aux questions que vous vous posez. D'accord ? Mais c'est une première manière d'évaluer, moi en tant qu'enseignant, formateur en l'occurrence ici, hein, mais si je suis bien dans ce que vous attendez. Je ne sais pas comment j'ai configuré la question. Essayez, si vous pouvez en poser plusieurs, vous en posez plusieurs, pas de problème. À mon avis, si vous réencodez PPP à 3, vous devriez recommencer parce qu'il n'y a pas d'éléments. Alors, on a des questions comme évaluer la satisfaction ou l'efficacité dans l'enseignement. C'est une autre question, on va y répondre. Comment améliorer les réponses ouvertes, comment terre libre des étudiants, c'est une bonne question aussi. Comment bien évaluer les enseignements, ok, ça c'est sans problème, on abordera ça. Les questions posées dans les questionnaires sont-elles pertinentes? Voilà, super question. L'utilité de cette évaluation pour améliorer la qualité de l'enseignement, ok. Une indication de la qualité de l'enseignement. Comment analyser et traiter les retours des étudiants quand ils sont peu représentatifs? Ouais. C'est des questions assez classiques. Comment bien aligner les enseignements et l'évaluation? Quelle est la pertinence de l'évaluation par les étudiants? Comment utiliser l'évaluation pour créer une évolution positive de mes enseignements, etc. Ok, on peut clôturer là, tout le monde a... Comment relier les acquis et les compétences? Ça, c'est une question... les acquis d'apprentissage et les compétences qui sort largement, me semble-t-il, le cadre de ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est une question vachement pertinente, mais ouais, c'est pas si évident que ça d'y répondre, surtout si on prend la focale de l'évaluation et l'évaluation des enseignements. C'est plus une question pédagogique de fond. Ouais, sanctionne les enseignements peu attrayants, à qui ça s'adresse. Dans la culture de l'université, c'est une bonne question. Ok, je pense que j'ai un peu prévu les questions que vous vous posiez. On va faire juste l'exercice suivant. Encore une fois, ce n'est pas tellement que je vais avoir besoin ou l'utilité de cette information, mais je vous montre des outils que vous pourrez réutiliser. WCLAP est un outil pour lequel il y a une version que vous pouvez utiliser sans payer. Après, il y a une version pro qui fait beaucoup plus de choses. Answer Garden aussi. Donc, je vous propose de vous connecter à l'application ici, https://answergarden.ch, c'est un site suisse, et puis de taper 935-484. Et donc, quand vous y êtes, de taper les mots-clés qui vous viennent à l'esprit quand vous vous dites évaluation des enseignements. Je veux dire que c'est une question un peu redondante. Ça va, vous y êtes? Vous êtes connecté? Ah, il y a quelqu'un qui a tapé dans les réponses l'identifiant de la formation, mais si vous y êtes, il n'y a pas besoin de le retaper là. C'est pas très grave. Je vais vous montrer. Ah, bah, vous l'avez aussi, hein, mais je vais quand même vous montrer. Donc vous avez cette interface-ci normalement, et il suffit ici de taper le mot-clé qui vous vient à l'esprit. Voilà, j'ai jugement qui vient d'apparaître, donc il y a... ça commence à venir. Il y a un problème ?
Qu'est-ce qu'on doit faire?
Ben vous tapez les mots-clés qui vous viennent à l'esprit quand on vous dit évaluation des enseignements. Vous en tapez 3, 4, vous pouvez en choisir plusieurs. Donc il y a jugement qui vient d'être choisi par l'un d'entre vous. Amélioration, critique, progression, pédagogie, angoisse, qualité. Ah, angoisse. Ok, donc on voit l'UH de poids. Plus le mot est grand, plus il a été cité plusieurs fois. Alors c'est un système qui n'est pas parfait. Si on mettait amélioration avec S, il n'apparaîtrait pas en tant qu'amélioration. Mais ça permet déjà d'avoir un certain nombre de mots-clés. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez utile quand vous voulez recueillir des prérequis des étudiants, quand vous voulez recueillir comment ils se positionnent par rapport à votre matière, quand vous voulez recueillir leur avis simplement sur des éléments, et vous pouvez le faire avant votre formation, et si on a le temps, mais on n'aura sans doute pas le temps, on pourrait le faire après la formation, et voir comment ces mots-clés ont le changement dans la distribution de ces mots-clés. D'accord. Donc ce sont des outils, encore une fois, gratuits. Vous pouvez les noter. De toute façon, le PowerPoint vous sera acheminé, je l'enverrai en tout cas. Et ce sont des outils qui vous permettent de situer un peu la répartition des choses. Donc, amélioration, oui. On verra que effectivement, l'évaluation des enseignements peut, pas nécessairement, peut viser des fins d'amélioration. Critique, alors je ne sais pas si vous avez peur des critiques des étudiants, si vous êtes critique par rapport au système, mais de toute façon, on va sans doute aborder les deux. Sanctions, effectivement, est-ce que c'est des éléments de sanction, est-ce que c'est des éléments formatifs? Et vous allez voir qu'on ne va pas éluder la question, on va parler de ça. Pédagogie, bien sûr, ça permet une forme de régulation pédagogique. Jugement, on peut se poser la question du jugement des étudiants, est-ce qu'ils sont compétents, est-ce qu'ils sont performants quand ils évaluent mon enseignement, est-ce qu'on peut vraiment leur donner du crédit? Et puis il y a d'autres petites choses, retour, modération, satisfaction, outils, enquête de satisfaction, objectivité, parole libre, qualité, anonyme, et puis on avait tout à l'heure toujours angoisse. Alors l'angoisse du jeune enseignant, effectivement, qui fait beaucoup d'efforts et puis qui voit que ses étudiants n'apprécient pas les efforts, et bien cette angoisse est parfaitement décrite dans la littérature, donc ce n'est pas un fantasme, c'est un argument qui est tout à fait raisonné et sur lequel on aura l'occasion sans doute de, pas de revenir directement, mais de tourner sur des éléments qui apportent quelque chose par rapport à ça. Je vais quand même juste vous montrer, mais on ne va pas faire l'ensemble des questions que j'avais prévues, parce qu'il faut à un moment donné aussi que je puisse, moi, apporter quelque chose à vos réponses. Alors, je vais vous présenter un autre outil qui s'appelle Plickr, celui aussi gratuit, et qui utilise en fait des fiches comme celle-ci. Donc, je vous propose d'en prendre une et puis de les passer à vos collègues. Elles sont toutes différentes. Là, s'il en monte en bout de table, vous faites des passer d'un bord à l'autre. Normalement, il y en a 40, donc vous devriez en avoir plus. Vous avez sur ces fiches, si vous les regardez bien, il y a un numéro, mais ça, on s'en fout un peu. Mais vous avez A, B, C ou D. Si la réponse que vous avez envie de choisir est la A, vous mettez le A au-dessus. Si la réponse que vous avez envie de choisir est la B, vous mettez le B au-dessus. Si la réponse que vous avez envie de choisir, vous mettez le C au-dessus et vous me montrez simplement la fiche avec la réponse que vous voulez donner au-dessus. Vous avez tous des fiches différentes et si vous regardez bien, les A, B, C, D sont assez petits. Donc ça permet de préserver une forme d'anonymat. Je ne dis pas que la personne juste à côté de vous, si elle fait vraiment ça, elle ne verra pas votre réponse. Mais sinon, en règle générale, en tout cas, ça permet de préserver un anonymat. C'est comme un malvé, sauf que personne ne voit si vous votez pour la réponse A, B, C ou D. Et c'est quelque chose pour lequel il n'y a pas besoin, contrairement aux activités précédentes, que les étudiants aient leur propre matériel, ordinateur, téléphone, etc. Puisque tout se passe à partir de votre téléphone et d'une application qui est en ligne. Alors, Plickr, voilà. Alors, c'est assez facile d'usage. En théorie, en tout cas, je vous avoue que je n'utilise pas tous les jours, mais j'ai retesté. Il faut juste que je retrouve l'appui sur mon téléphone. Alors, Plickr. Voilà l'appui. Voilà. Et voilà, je vous propose de répondre à des questions. Alors, je trouve pertinent que les institutions d'enseignement supérieur organisent le recueil de l'avis des étudiants à des fins d'évaluation. Donc, quatre réponses possibles, tout à fait d'accord, pas du tout d'accord, A, tout à fait d'accord, B, plutôt d'accord, C, plutôt pas d'accord, D, pas du tout d'accord. Donc, vous montrez bien la fiche. Moi, avec mon téléphone, je les scanne, et je vous jure que ça fonctionne bien. Alors, il faut parfois faire comme ça pour aller prendre la fiche de derrière, mais sinon, ça fonctionne bien. Je veux voir les résultats qui s'affichent, en tout cas sur mon téléphone. Il doit y avoir moyen de showgraph, voilà. Et vous êtes assez d'accord avec le fait que, tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec le fait que votre institution a des raisons de faire ceci. Ok. Alors,
faut les imprimer ces petites fiches.
Oui, vous les imprimez sur votre machine, oui, tout à fait. Donc ça s'imprime, vous les distribuez, vous téléchargez l'application, c'est assez facile. et ça marche assez bien. On va faire une deuxième question et puis on arrêtera là. Vous aurez compris un peu la logique de ces outils. L'évaluation d'enseignement par les étudiants va permettre à l'institution d'améliorer globalement la qualité de ses enseignants. Là aussi, ABCD. Voilà. Ok. Ah. Voilà, donc vous êtes plutôt d'accord avec ça. C'est une espèce de courbe gaussienne, elles sont l'inverse. Avec effectivement, la moyenne est un plutôt d'accord. Mais il y en a quelques-uns qui sont plutôt pas d'accord avec ça. Ok. Est-ce que j'en ai encore une qui me semble pertinente? Ah oui, je vais quand même vous poser celle-là aussi, tiens. Est-ce que ça va vous permettre, ce qui est récolté au niveau institutionnel, d'améliorer la qualité de votre enseignement?
L'évaluation
des enseignements par les étudiants. Donc l'évaluation des enseignants. Oula, oui.
Enseignement ou enseignant?
Non, pardon.
Il y a un lapsus.
Non, c'est pas un lapsus.
Révélateur.
C'est une faute de frappe. Je ne fais plus lapsus depuis 15 ans. L'évaluation des enseignements organisée par la direction va me permettre d'améliorer la qualité de mes enseignements. Okay, voyons les résultats. Voilà, alors il y en a qui ne sont pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, plutôt d'accord et tout à fait d'accord. Là aussi, une espèce de courbe de gaussienne presque parfaite. Mon avis à moi, c'est que ni l'un ni l'autre. Je pense que l'évaluation des enseignements par les étudiants recueillis par votre institution n'a pas pour vocation première d'améliorer nécessairement la qualité des enseignements. Je pense que c'est utile, je pense que c'est nécessaire, je pense que les démarches qualité obligent les universités, je pense que la loi oblige les universités à accueillir cette information. Mais je pense que si on se contente de la recueillir de manière un peu souple, on n'arrivera pas à atteindre cet objectif-là. On aura des indicateurs, l'institution pourra prendre des mesures de formation, pourra vous proposer peut-être des outils, mais c'est via ces effets indirects de prise d'enjeux institutionnels que ça pourrait retomber sur vos enseignements. Ce n'est pas le questionnaire qui est proposé par l'administration qui va vous être d'une aide cruciale pour améliorer la qualité de vos enseignements, ni qui va être pertinent ou crucial pour que l'institution dans son ensemble puisse augmenter sa qualité pédagogique. C'est les décisions qui vont être prises suite à ça, qui vont être prises par l'institution, qui, à moyen terme, pourront enclencher une approche qualité qui devrait permettre d'améliorer les choses. Et par rapport à vous, ben, je pense que ça va avoir finalement peu d'effet sur votre propre enseignement. Et là, quand je dis relativement peu d'effet, ça va dépendre de vos profils. Il y a des enseignants qui vont, quoi qu'il en soit, les utiliser. Et puis il y en a d'autres qui vont, quoi qu'il en soit, ne jamais les utiliser. Et entre ces deux pôles-là, c'est la qualité du dispositif qui fera qu'il y en a quelques-uns en plus qui vont l'utiliser, quelques-uns en moins qui vont l'utiliser. Mais je pense que si le but et l'enjeu est d'améliorer la qualité de vos propres enseignements, alors ce n'est pas l'institution qui doit se préoccuper de la qualité de la mesure recueillie, c'est vous qui devez vous en occuper. Pourquoi ? Parce que l'institution, si elle veut faire ça, elle veut faire ça pour plusieurs fins. Elle veut faire ça à des fins administratives peut-être. En Belgique, en Suisse, ces évaluations sont utilisées quand un enseignant veut une promotion. En France, ce n'est pas encore tout à fait le cas, enfin, pas que je sache, mais en tout cas, en Suisse et en Belgique, c'est courant. Donc, quand un prof veut une promotion, quand un prof veut une nomination, hop, on lui demande ben, c'est quoi l'évaluation de la qualité de vos enseignants, et il arrive avec ses dispositifs. L'Europe, l'évaluation, l'approche qualité européenne, qui se répercute selon des organismes de qualité en Belgique et en France, etc., demande que le public cible, c'est-à-dire les étudiants, soit évalué, comme dans tout processus qualité, le client, alors on peut discuter longuement, est-ce que l'étudiant, le client, le produit conforme, hein, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais en tout cas, il y a une logique à faire en sorte que l'étudiant, qui est le témoin privilégié des enseignements, évalue ceci. Et donc, il y a une logique lourde qui vient de l'Europe, qui vient de l'approche par chiffres, qui vient d'éléments tels que ceux-là, qui dit les étudiants doivent évaluer la qualité des enseignements. Alors les institutions, elles reçoivent le message, Et puis, qu'est-ce qu'elles font? Si elles ont besoin d'un certain nombre de chiffres de ce type-là, elles ont besoin d'indicateurs. Ah, l'Europe demande des indicateurs. Et un jour, mon recteur me téléphone et il me dit, Pascal, toi qui t'occupes d'évaluation des enseignements par les étudiants, j'aurais besoin d'un chiffre qui résume la satisfaction globale des étudiants par rapport à nos cours, et c'est l'Europe qui me le demande. Donc il voulait que je dise 16 sur 20, 18 sur 20. Ça n'a évidemment pas de sens, sauf peut-être pour les gens qui le demandent, qui en font je ne sais quoi, mais ça n'a pas de sens, parce que si on fait ça, ça veut dire quoi? Que les questionnaires doivent être les mêmes, on doit pouvoir comparer un enseignement avec un autre, si à un moment donné ils postulent pour le même poste, on doit pouvoir comparer deux personnes, et je vous dis, en Suisse et en Belgique ça se fait. Si on veut des indicateurs qui sont lisibles par les commissions européennes, etc., il faut qu'ils soient relativement standardisés, donc il faut que les questions là aussi soient les mêmes. Les étudiants ne vont pas répondre à des dizaines et des dizaines et des dizaines de questions, sinon ben, ils ne le feront pas, ou même s'ils le font, ils s'en lasseront, ou même s'ils ne s'en lassent pas, ils répondront à n'importe quoi. Donc, au niveau institutionnel, on a besoin de quoi? 10 questions qui sont toutes les mêmes, qui brossent à peu près l'ensemble de ce qu'est la qualité dans l'enseignement. Est-ce que l'enseignant était à l'heure? Est-ce que les objectifs étaient formulés clairement? Est-ce que l'enseignant rend le cours attractif? Ben, c'est toujours plus ou moins les 10 mêmes items qu'on retrouve. Et ça, l'institution, elle est ravie avec ça. C'est pour ça qu'elle fait une évaluation des enseignements par les étudiants. Et vous recevez votre feedback, parce que quand même, on espère qu'on vous le donne. Ce n'est pas le cas partout, hein. Parfois on ne le donne même pas aux enseignants. Mais imaginons qu'on vous le donne, et vous recevez votre feedback, et vous dites, l'enseignant est ponctuel. Et vous êtes très frustré, parce qu'en fait, une fois vous n'êtes pas arrivé à l'heure, et vous voyez que votre évaluation, elle est plutôt mauvaise là-dessus. Vous dites, mais enfin, c'est dégueulasse, quoi. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes déjà un petit peu énervé. Puis vous avez, mes objectifs sont présentés clairement. Et vous dites, mais oui, c'est normal qu'ils ne le sont pas. Moi, je fais de la dynamique des groupes. Si j'explique avant les activités et les objectifs que je poursuis, je coupe sur l'herbe les activités que je mets en place. Et donc non, c'est normal, je ne présente pas ça aux étudiants, mais c'est normal, c'est une démarche volontaire de ma part, où vous allez vous dire, bah oui, mais non, mais c'est dans les engagements pédagogiques, dans les syllabus, ils n'ont qu'à lire, ils n'ont pas lu. Donc vous voyez, cette information-là, elle vous apporte, alors troisième possibilité, attendez, vous dites, mes évaluations, les étudiants ne les aiment pas, hein, les dispositifs d'évaluation ne permettent pas d'évaluer, et vous êtes spécialiste de l'évaluation, vous dites, bah oui, je sais bien qu'ils n'aiment pas ce que je mets en place, par exemple des degrés de certitude avec des QCM, donc des questions choix multiples avec des degrés de certitude, donc non seulement ils doivent donner une réponse, mais le degré de certitude qu'ils ont par rapport à la réponse qu'ils ont donnée, ce qui est une particularité de mon université, ils n'aiment pas ça, mais moi je sais pourquoi je le fais, donc je m'en fous qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Sauf que peut-être que je vais encore essayer de leur expliquer une fois de plus à quoi ça sert et pourquoi on le fait, mais ce n'est pas ça qui va me permettre de réguler la qualité de mon enseignement. Si par contre, c'est un cours que vous donnez. Et vous êtes très embêté parce que c'est la première fois que vous donnez un cours en grand groupe, ils sont 200 devant vous, et vous constatez bien qu'il y en a 40 dans le fond qui n'écoutent pas et qui chahutent et que ça perturbe un peu tout le monde. À ça, vous avez envie de recueillir de l'information là-dessus. Pourquoi est-ce qu'ils chahutent? Est-ce qu'ils ne comprennent pas? Est-ce que ça n'a pas de sens? Est-ce que c'est parce que déjà l'auditoire est mal foutu? Parce que je ne suis pas assez interactif avec eux? Parce qu'ils n'ont pas les prérequis pour suivre mon enseignement? Parce que de toute façon, c'est des chahuteurs et il ferait mieux de ne pas être là? Enfin, y a mille explications que vous, avec votre expertise, vous pouvez avoir a priori sur mais pourquoi est-ce qu'ils font du bruit dans le fond de l'auditoire. Mais ce n'est jamais l'évaluation institutionnelle qui va vous apporter des réponses là-dessus. Si l'évaluation institutionnelle comprend un item là-dessus, ce sera déjà bien. Et s'il comprend un item, c'est le climat de classe permet-il de réaliser des apprentissages ou quelque chose de ce type-là. Mais vous savez que ce n'est pas le cas, parce que vous l'avez constaté. Et donc vous, ce que vous voulez, c'est creuser la question. Et donc vous avez besoin de poser beaucoup de questions sur un thème extrêmement fin pour qu'il y a du sens pour vous, sur lequel vous êtes prêt parce que ça bousille votre vie, ça vous embête profondément, et ça, vous êtes prêt d'y travailler. Alors je prends le climat de classe, ça pourrait être l'évaluation. Vous êtes très mal à l'aise avec votre dispositif d'évaluation. Le taux de réussite est faible, vous ne savez pas si c'est parce que les étudiants sont incompétents, alors que quand vous leur posez des questions, ça a l'air d'aller. Ou si c'est à cause de votre dispositif d'évaluation qui aura un problème. Vous avez aussi là peut-être envie de vous poser beaucoup de questions sur cette thématique-là à vos étudiants. Mais l'évaluation institutionnelle, si elle interroge l'évaluation, et c'est rarement le cas, mais imaginons qu'elle le fasse, elle dira, est-ce que les dispositifs d'évaluation reflètent votre compétence ou votre performance à la fin? Donc vous voyez, il y a vraiment, je pense fondamentalement, une espèce de jeu de dupes à faire croire aux enseignants que toute cette information qui est recueillie au niveau institutionnel, de manière standardisée, au niveau de leur cours, va réellement leur permettre à eux d'améliorer la qualité des enseignements. Je ne dis pas que c'est impossible, je ne dis pas qu'à un moment donné, peut-être que ça va vous alerter. Vous ne vous rendiez pas compte qu'il y avait un problème de climat de classe, les étudiants le disent massivement, vous dites « Ah ouais, zut alors, il y a un problème de climat de classe, je n'avais pas vu venir ». Ceci dit, ça ne vous dit pas comment vous pouvez améliorer les choses. Or, Or, pour que une évaluation permette d'enclencher des régulations, il faut qu'un certain nombre d'éléments soient favorables, soient présents. Il faut que la formation ait du sens pour l'enseignant. Je vous dis, si vous êtes sûr et certain que vos modalités d'évaluation sont les meilleures parce que c'est votre métier et que les étudiants s'en plaignent, ça n'a pas de sens pour vous. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas prendre ça comme une révélation en disant « il faut que je change, il faut que je change ». Deux, il faut que la formation soit nouvelle. Si ça vous dit quelque chose que vous savez déjà et que vous n'avez pas remis en ordre d'une année sur l'autre, ma foi, vous ne le mettrez pas en ordre cette année-là non plus. Et trois, il faut que ça vous donne des pistes pour améliorer les choses. Et c'est là-dessus que l'évaluation institutionnelle est excessivement faible parce que les pistes sont rares. Alors parfois, il y en a dans les commentaires ouverts des étudiants. Parfois. Donc ça vaut la peine d'aller les lire. Mais à chaque fois que vous allez lire ces commentaires d'étudiants, vous ne saurez pas si c'est un étudiant qui pense ça, si c'est 10 étudiants qui pensent ça, si la majorité des étudiants pensent ça. Ce qui n'est pas grave. La question était posée, hein, qu'est-ce qu'on fait avec un taux de réponse d'étudiants qui est un peu faible? Moi je dis que ce n'est pas si grave que ça, en tout cas quand c'est à des fins formatives, parce qu'il suffit qu'un étudiant dise quelque chose qui a du sens pour vous, qui met le doigt sur quelque chose que vous avez senti un peu confusément quand vous donniez votre cours, pour enclencher des méthodes d'amélioration de votre enseignement. D'accord? Bon, voilà, le take-home message, c'est celui-là. Si vous retenez que ça, je suis déjà bien content et si vous vous dites ok, si je veux à un moment donné réguler mon enseignement, je ne dois pas sous-traiter ça à l'institution, il faut moi-même que j'organise des petits éléments pour aller prendre de l'information chez les étudiants qui vont permettre d'opérer un jugement et qui me permettront de prendre des décisions, et que vous avez vu quelques outils qui vous permettent de le faire, et encore une fois, vous pouvez vous passer d'outils, là je vous évalue constamment, hein, et vous m'évaluez constamment, je vous le rappelle. À la fin du cours, des étudiants viennent vous poser des questions, c'est une prise d'information sur ce que des étudiants ont compris ou pas de ce que vous avez enseigné. On va en voir d'autres, mais voilà, il y a des éléments comme ça. Si vous retenez que ça à la fin de la conférence, je trouve que c'est déjà pas si mal. Maintenant, bien sûr, on va aborder la matière avec des slides, des éléments un peu plus théoriques qui permettront de peut-être répondre à d'autres questions que vous vous posez. L'évaluation des enseignements, et c'est assez typique, mes questions initiales ne portaient pas sur l'évaluation des enseignements par les étudiants, mais la plupart d'entre vous l'ont entendu. C'est-à-dire que quand on parle d'évaluation de la qualité des enseignements maintenant, très vite, c'est la qualité de l'évaluation des enseignements par les étudiants. Ça le vend en poupe, il y a des articles, il y a un champ de littérature qui devient important, il y a des numéros spéciaux de plein de revues pédagogiques qui sortent sur le sujet. La plupart des institutions mettent en place une évaluation des enseignements par les étudiants. Décrétalement en France, c'est une obligation. En Belgique, ça vient de le devenir aussi pour les hautes écoles. Donc, et pour les universités, c'était le cas depuis longtemps. Donc, il y a là, si vous voulez, une montée en puissance de ce concept d'évaluation des enseignements par les étudiants. Je ne suis pas étonné que vos questions traitent ce sujet-là et que, sans doute, que la première intention de me faire venir ici, c'était pour parler de cet élément-là. Alors, je trouve que c'est appauvrir le champ conceptuel de l'évaluation des enseignants. Vous l'avez bien compris dans mon discours, de ne parler que de ça. Et on va passer très rapidement, on ne va pas avoir trop de temps tout aborder, mais un petit modèle de réflexion par rapport à ça. L'évaluation des enseignements, pour moi, il faut réfléchir en termes d'objectifs, puis en termes de sources d'information, qui a l'information qui permettrait de répondre à mes objectifs, de méthode seulement, après, de critères de qualité, c'est quoi les critères de qualité dont j'ai besoin pour répondre avec efficacité à ces objectifs, d'objets, de niveau d'analyse et reboucler. Je passe très vite parce qu'on va décrire les points un à un. Dans les objectifs, je vous l'ai dit, pour moi, il y a des objectifs et ils ne sont pas nécessairement conciliables. Il y a des objectifs formatifs. Vous donnez à vous de la formation pour améliorer la qualité de vos enseignements. Pour moi, ça, c'est typiquement essentiel. Mais vous ne devez pas nécessairement attendre que l'institution vous en donne les outils. Vous le faites déjà. Si vous êtes là, a priori, vous êtes des enseignants qui sont intéressés par l'idée de donner vos cours. Hein, sinon, vous feriez de la recherche là au moment où je vous parle. Donc, je suis sûr que vous avez cette préoccupation-là. Je parle à des convaincus, mais cette évaluation formative, elle est essentielle. Si vous ne prenez pas de la formation sur la manière dont se passent vos cours pour essayer d'avoir un jugement de valeur par rapport à ça, c'est ok, ça se passe bien, ou il faut que je régule mon enseignement et que vous ne passez pas à l'action, c'est votre métier d'enseignant auquel enfin, voilà, qui ne fonctionnera pas. Il y a deux autres types d'objectifs qui pour moi sont compatibles ou difficilement compatibles. C'est des objectifs certificatifs, c'est-à-dire certifier la qualité d'un cours. Chez nous, en Belgique, on commence à se dire que peut-être que la certification de filière de formation devrait déboucher sur des financements préférentiels, en fonction des filières qui sont bien évaluées par rapport à d'autres qui ne le seraient pas. Donc il y a là quelque chose de certificatif. Chez nous, un enseignant qui veut une promotion avec des mauvaises évaluations des enseignements par les étudiants aura plus de difficultés à l'obtenir que quelqu'un qui en a des bonnes, à profil égal. Je ne dis pas que c'est le critère majeur, mais c'est un critère. Et puis, il y a un autre élément important, c'est rendre des comptes, et rendre des comptes notamment aux étudiants, au pouvoir subsidiant, pardon. Donc notre pouvoir subsidiant, ben, il demande parfois, oui, mais c'est quoi la qualité de ce que vous faites? On met plein d'argent dans l'enseignement supérieur, c'est quoi la qualité de ce que vous faites? Et quand on pose cette question-là, l'évaluation des enseignements par les étudiants n'est jamais très loin. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, on a des dispositifs bien plus complexes que ça, mais tous ces dispositifs, à un moment donné, veulent voir de l'évaluation des enseignements par les étudiants. Et c'est pour ça que j'ai parlé, je ne l'ai pas dit, mais c'était sur le slide, d'espèce de couteau suisse. C'est-à-dire, vous avez un problème d'évaluation avec les enseignements, boum, évaluation des enseignements par les étudiants. Ça fait à peu près tout. Oui, mais non, ça fait... Ok, l'outil permet de faire tout ça, mais pas la même structuration de l'outil. Encore une fois, si on veut poser des questions institutionnelles, on va se contenter d'une dizaine de questions qui vont brosser l'ensemble de ce que c'est un enseignement de qualité. On va assurer une validité de contenu. Enfin, je ne vais pas rentrer dans des détails ou dans du jargon, mais clairement, on a cet objectif de couvrir l'ensemble de ce qu'est un enseignement de qualité. Quand vous, vous voulez recueillir de l'information, vous savez sur quoi vous voulez de l'information, parce que vous savez sur quoi vous êtes prêt à travailler l'année prochaine pour améliorer les choses. Et donc, vous avez besoin de beaucoup de questions qui portent sur un élément relativement étroit de votre enseignement. Et donc, vous voyez bien que les finalités des deux éléments ne sont pas nécessairement conciliables. Chez nous, dans mon université, il y a des questions obligatoires parce que mon recteur, parce que les agences qualité ont besoin de critères. Donc, on a joué le jeu. Il y a 7 questions qui sont obligatoires et posées à tous les enseignants, quels qu'ils soient. Et puis, l'enseignant a la possibilité de rajouter une dizaine de questions qui a du sens pour lui et dont le feedback n'ira que chez lui. Ça n'ira pas au recteur, ça n'ira pas au doyen, ça n'ira que chez lui. Et le doyen, le vice-doyen à l'enseignement, celui qui dans une filière doit émuler quelque chose de pédagogique, peut aussi poser 5 questions qui n'iront que chez lui et chez l'enseignant. L'enseignant ayant l'ensemble de la formation, c'est bien normal, sur le cours qu'il est en train de donner. Mais vous voyez, il y a 3 niveaux. Il y a les questions institutionnelles qui vont chez l'enseignant, et uniquement chez l'enseignant, et chez le recteur pour les nominations, les promotions, les chiffres de qualité qui sont recueillis. Il y a des questions qui sont posées par le vice-doyen qui vont chez le vice-doyen et chez l'enseignant. Et il y a des questions posées chez l'enseignant qui vont que chez lui. Comme ça, l'étudiant a un questionnaire unique. Il voit quel type de questions sont demandées par les uns et par les autres. Il y répond. Et puis les feedbacks sont distribués en fonction de l'auteur des questions, de celui qui a demandé les questions spécifiques. Ce qui permet avec un seul outil, un seul questionnaire, à la fin du cours, institutionnalisé, de recueillir de l'information. Donc c'est la manière qu'on a trouvée pour essayer de réconcilier les logiques. Mais si on n'arrive pas à instrumenter des éléments comme ça, les logiques ne sont pas facilement réconciliables. D'accord ? Ce qui n'empêche pas qu'on ait aussi une formation qu'on donne à tous nos enseignants et qui leur permet d'aller prendre de l'information, c'est un condensé que je vous fais aujourd'hui, de l'information sur la qualité de leurs enseignements, sans passer par le système institutionnel. Parce qu'on pense que là aussi, il y a quelque chose d'intéressant, ça permet sans doute plus d'interaction. Certains sont mal à l'aise avec ça, donc passent par le côté institutionnel. D'autres adorent ça, donc vont poser quelques questions à leurs étudiants, par exemple, avec Pickers, les papiers que je vous ai montrés, et puis va animer un débat là-dessus. Parfois ça prend, parfois ça ne prend pas, mais en tout cas, il a la possibilité de creuser une question fondamentale qu'il a envie de creuser avec ses étudiants. Donc les objectifs, il y en a 3, et pour moi, ils ne sont pas nécessairement compatibles. Les outils qui les soutiennent peuvent être les mêmes outils, ça peut être la vie des étudiants, mais en tout cas, la logique entre les 3 outils n'est pas nécessairement compatible, sauf si on met en place, je vous dis, une grande réflexion et qu'on essaye d'articuler des objectifs qui, a priori, sont incompatibles, et essayer de les rendre compatibles dans le même moment, notamment pour ne pas que l'étudiant soit confronté à 15 questionnaires pendant l'année sur le même cours, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Alors, quand on parle d'évaluation des enseignements, donc on vient de voir les objectifs, moi j'aimerais bien qu'on parle aussi un peu de source d'information, parce que l'étudiant n'est pas la seule source d'information pour évaluer la qualité d'un enseignement. D'accord ? Il y a plein d'autres sources. D'abord, il y a les anciens étudiants. Est-ce que mon cours était intéressant ? Parfois, c'est quand on est en milieu professionnel qu'on se rend compte, heureusement qu'on a eu ce cours-là. Même si c'était un cours au début qui nous semblait complètement rébarbatif. Donc, interroger les alumni est quelque chose d'intéressant. Les pairs, aller demander à d'autres enseignants Vous êtes un prof de physique qui donnait cours en pharmacie. Allez voir si le cours de physique en faculté des sciences ou en faculté de médecine a des points communs, est différent. Comment est-ce que vos collègues amènent de la formation? Invitez vos collègues à venir observer un de vos cours. Un cours notamment difficile, bien sûr, si vos collègues sont bienveillants et si c'est un ami critique bienveillant, si c'est votre pire ennemi, évitez surtout de l'inviter à participer à votre cours. Vous n'en tirerez rien que des ennuis. Les enseignants, on en a déjà parlé. Les employeurs, dans certaines filières qui sont très professionnalisantes, comme les études commerciales chez nous, ça vaut la peine aussi de les interroger. Est-ce que finalement mon cours participe bien à travailler des éléments importants du profil de sortie des étudiants pour vous qui devez les employer après? Est-ce que mon cours de dynamique de groupe que je propose à des ingénieurs de gestion, est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement, ceux qui sortent de chez nous, ils ont cette compétence? Ou est-ce qu'il faut tout leur réapprendre? D'accord? Donc les employeurs peuvent être une source d'information. Des pédagogues, ce n'est pas un gros mot, demandez à avoir des pédagogues de venir voir votre cours, de venir travailler sur votre matériau, de venir réfléchir avec vous à vos engagements pédagogiques. Hein. Vous savez, c'est je ne sais pas comment vous appelez ça ici, ni même si ça existe, mais c'est l'espèce de contrat didactique que l'étudiant peut consulter sur un site web et qui explique les finalités du cours, les méthodes qui vont être utilisées, les critères d'évaluation, etc. Ça veut dire qu'un pédagogue se penche sur cette question-là. Et puis votre cours, il produit énormément de documents. Il y a tous les PowerPoint, il y a, je viens de le dire, ces contrats pédagogiques, il y a vos questionnaires d'examen. N'hésitez pas à utiliser ça aussi, avoir un regard réflexif sur tous ces éléments-là pour voir si vous pouvez les améliorer. Donc vous voyez, quand on parle d'évaluation des enseignements, pour moi, la source étudiante, elle est utile, elle est précieuse, c'est le seul témoin privilégié de la manière dont sont donnés le cours, et en plus c'est pas n'importe quel témoin parce que le cours a été construit pour lui, mais quand même c'est pas le seul élément à prendre en compte quand on veut évaluer la qualité des enseignements. Et quand je vous ai dit chez nous que la qualité, enfin l'évaluation des enseignements par les étudiants était parfois utilisée pour les carrières des enseignants, jamais seul. Chez nous, les engagements pédagogiques, donc ce document qui doit être écrit avant le cours, il est analysé par des commissions de formation, et l'enseignant doit écrire un projet pédagogique sur ce qu'il envisage améliorer, et il doit l'instruire avec des éléments d'analyse qu'il fait sur son cours et des éléments de prospective qu'il va pouvoir mettre en place sur son cours. Donc c'est jamais utilisé de manière complètement isolée, et c'est tant mieux. Alors, la méthode, quand on parle d'évaluation des enseignements par les étudiants, la plupart du temps on entend le questionnaire, qui peut être papier ou en ligne, il y a tout un tas d'autres méthodes. Il y a, par exemple, les résultats aux examens de vos étudiants, c'est quand même une méthode qui n'est pas impertinente. Alors, parfois, ça veut dire que le groupe est spécialement faible, mais quand même, avoir à un moment donné un regard critique vous-même sur la qualité des acquis d'apprentissage maîtrisés par vos étudiants à la fin d'un cours, ça peut être pertinent. Il y a de l'observation, je vous en ai suffisamment parlé, vous êtes en train de m'évaluer, je suis en train de vous évaluer avec de l'observation. Ça peut être aussi un pédagogue qui vient observer votre cours. Ça peut être un pair qui vient observer votre cours, mais c'est un outil qui est intéressant. Le focus group est un outil absolument génial à mettre en œuvre avec des étudiants ou avec des enseignants d'une même discipline pour voir comment on peut améliorer le matériau du cours. Mais avec les étudiants, c'est absolument génial, sauf qu'en général, ce n'est pas le prof qui est le mieux mis pour le faire, parce que le prof, il a quand même le bic rouge à la fin. Mais moi, il m'arrive dans mon institution d'aller faire des focus group avec des étudiants pour solutionner des problèmes critiques qui ont été relevés, soit dans des questionnaires d'évaluation des enseignements par les étudiants, soit à la demande d'un vice-doyen à la recherche, soit, et c'est le plus souvent, à la demande d'un enseignant qui a un problème pour un cours donné. Hop, on réunit 12 étudiants tirés au hasard, on s'assure bien qu'il y ait des faibles, des bons, des très bons et des très faibles. Et puis moi, j'anime ça et je dis, alors c'est quoi le problème sur le cours? Qu'est-ce que vous avez bien aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Donc le focus group est quelque chose qui est tout à fait intéressant. L'interview aussi, aller chercher quelques étudiants et les interroger directement. C'est peut-être ce que vous faites déjà à la fin de votre cours. Hein, quand vous avez un étudiant qui va vous poser des questions, peut-être que ça vaut la peine de lui dire, sinon le cours ça va, tu comprends bien. Donc, c'est quoi les choses que tu as appris? C'est quoi les choses qui ont été plus difficiles à apprendre pour toi dans ce cours-ci donné, etc. Ça vaut la peine d'aller chercher ce genre d'informations. Ok? J'évalue. On est toujours avec moi, on continue, vous n'êtes pas trop, je ne vais pas trop vite, on peut continuer. Alors, les critères de qualité, je vous passe ce slide-là, j'en ai un tout petit peu parlé, mais il me faudrait trop de temps et on ne l'a plus. Mais c'est, si vous évaluez quelqu'un à des phases de carrière, c'est la qualité de l'enseignement dans sa totalité, donc vous devez être valide, et valide, ça veut dire brosser l'ensemble de ce que c'est qu'un enseignement de qualité. Donc vous devez aller lire dans les littératures, il y a souvent, ça dépend des auteurs, 7, 8, 9, 12 critères d'un enseignement de qualité, et vos questions doivent porter là-dessus, parce que vous avez une espèce d'évidence-based qui accompagne ça, et donc vous savez que vos questions vont bien brosser l'ensemble du spectre de ce que c'est un enseignement de qualité. Si vous voulez poser des questions qui ont du sens pour vous, vous pouvez complètement perdre cette histoire de validité de contenu, simplement vous focalisez sur un des éléments, et là par contre vous avez besoin de sensibilité, donc d'aller en profondeur sur ce concept-là pour le comprendre au maximum, pour pouvoir amener de la régulation, et de la diagnosticité aussi, si vous voulez voir comment vous pouvez améliorer les choses. Je passe sur ce slide-là qui sera un peu trop long à développer plus en détail, mais voilà, je veux dire, l'approche qu'on a, elle est différente en fonction des objectifs qu'on poursuit, et ça par contre je vous le répéterai dans quelques minutes. Alors les objets de l'enseignement, ils sont super nombreux, vous pouvez évaluer des tas de trucs, est-ce que les objectifs étaient pertinents, est-ce que les méthodes d'enseignement-apprentissage étaient les bonnes, est-ce que la gestion de mon temps était bon. Moi dans le secondaire je me suis un peu frité avec un enseignant qui en cours d'anglais avait vu 5 séances de son syllabus de la rentrée de l'année jusqu'à Pâques, et puis parce qu'il était en retard, il en avait vu 10 de Pâques à la fin de l'année, j'étais furieux sur lui, je lui ai dit, parce qu'il n'avait pas bien géré son temps, donc la gestion du temps, c'est quelque chose qui est important. Quelle est la qualité de vos ressources pédagogiques, la gestion de la matière, est-ce que vous arrivez à voir ce qui est plus difficile pour les étudiants et à amener des concepts didactiques qui leur permettent de saisir ça. La gestion du groupe, est-ce que vous vous assurez qu'il y ait une espèce de climat de classe favorable, l'évaluation, vos méthodes d'évaluation, la motivation de vos étudiants, est-ce que vous vous assurez que vos activités soient suffisamment motivantes par rapport à vos étudiants, les apprenants et leur profil, est-ce qu'ils ont les prérequis, est-ce que leur style d'apprentissage correspond au style d'enseignement que vous mettez en place, vous-même en tant qu'enseignant, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que vous pourriez améliorer, par exemple j'ai un problème avec ma voix, je n'arrive pas à la poser, je parle trop vite. Je le sais, je parle trop vite, on me le dit tout le temps, j'ai du mal à réguler ça. Parfois j'y arrive, aujourd'hui j'y arrive un peu moins, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et je suis très enthousiaste. Mais voilà, ça fait partie des choses qui sont des variables qu'on peut modifier pour la qualité de son enseignement et sur laquelle ça vaut la peine de prendre de l'information. Si je voulais vraiment avoir une information claire là-dessus, je vous poserais la question, est-ce que vous trouvez que mon débit est trop rapide? Et en fonction de vos réponses, je pourrais essayer de faire des efforts dans cette logique-là. Donc vous voyez, il y a des objets d'évaluation qui sont nombreux et variés. Il y a des niveaux d'analyse qui sont aussi intéressants à observer. Qu'est-ce qui vous intéresse d'analyser? La manière dont vous avez présenté à l'étudiant ce petit concept de 10 minutes, mais que vous savez que c'est un concept qui est vachement difficile à comprendre pour eux. Est-ce que c'est le cours, la leçon, les 2 heures que vous venez de passer avec eux? Est-ce que c'est les 30 crédits ECTS de votre cours? Est-ce que c'est l'ensemble du programme? Quel est le niveau le plus pertinent pour lequel vous avez envie de recueillir une information? D'accord? C'est aussi quelque chose d'important. Et donc, si vous gardez rien qu'en mémoire, cette espèce d'élément que j'essaye de vous apporter, vous voyez en fait qu'il y a, dans l'évaluation des enseignements par les étudiants, tel qu'on l'avait vu au début, il y a énormément de choses qui sont snobées, qui ne sont pas utilisées. Quand on parle de ça, ben la source, c'est les étudiants, c'est le questionnaire, c'est l'institution qui le pilote la plupart du temps. Et donc, vous voyez que quand on ne fait que ça, ben on passe à côté vraiment d'une série de méthodes, de sources, d'informations, et que ça vaut la peine d'y réfléchir. La manière dont je vous propose d'y réfléchir, c'est de d'abord réfléchir à ce que vous cherchez comme information. Et si j'étais devant des institutionnels, hein, devant le président de votre université, je lui dirais la même chose, c'est quoi que vous voulez? Quels sont vos objectifs? Satisfaire l'Europe, rendre des comptes, essayer quand même d'avoir une information qui vous permette de prendre des décisions pédagogiques. Et vous, je vous pose la question à vous aussi, c'est quoi votre objectif quand vous voulez recueillir de l'information? En fonction de ça, de ces objectifs-là, vous allez définir ben, qui a la formation et à quel niveau est-ce qu'elle l'est. Et puis vous allez pouvoir seulement après définir des outils pour aller chercher cette information, des méthodes d'analyse pour après traiter cette information, et puis des éléments donc, de jugement et de prise de décision pour réguler vos enseignements. Alors le temps passe assez vite, hein. Je me rends compte que je suis assez bavard, j'ai 2 autres gros points que je peux voir avec vous, et donc on va un peu voir dans quelle mesure ils vous intéressent ou pas. Je peux très longuement ou très rapidement passer sur un élément qui est la qualité des évaluations d'enseignement par les étudiants. est-ce que ça marche, est-ce que c'est fidèle, qu'est-ce que je fais quand on n'a pas assez d'avis de l'étudiant, qui sert de ça, etc., etc. Ou je peux venir sur d'autres techniques, méthodes qui vous permettent de recueillir à votre niveau à vous, enseignant, une information pertinente sur la qualité de vos enseignements. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? Alors, qui vote pour A, la qualité des enseignements par les étudiants ? Qui vote pour B ? Vous êtes un peu plus nombreux sur B. Alors, je ne vais pas frustrer ceux qui ont voté A. On va passer très rapidement là-dessus, mais ça va être très, très, très rapide. Il y a deux logiques. J'en ai déjà assez parlé. Alors, pour ceux qui ont voté A, je vous encourage à lire un article qui date un petit peu maintenant, mais de 2009, dans la revue française de pédagogie, qui s'appelle « L'évaluation des enseignants par les étudiants, état de la recherche et perspective ». C'est un article qui est, en français, me semble-t-il, un des seuls articles à s'intéresser à la qualité de la mesure. Après, il y a plein d'articles, et j'y ai contribué, Nathalie Younes, Saïd Pevandi, donc c'est les grands noms de l'évaluation des enseignements par les étudiants. Nathalie Younes et Saïd étant français d'ailleurs. Il y a Emmanuel Sylvestre en Suisse qui s'intéresse à ça, Denis Berthiaume. Donc c'est tous des gens qui ont réfléchi un peu à l'évaluation des enseignements, mais à ma connaissance, le seul article, et c'est pas pour rien qu'il est sorti au début, quand les francophones ont commencé vraiment à s'intéresser à l'évaluation des enseignements, c'était mais est-ce que finalement la mesure qui en sort vaut quelque chose ? Parce que si elle n'en vaut rien, ça ne sert même à rien d'y réfléchir plus en long. Alors, j'ai dit que j'allais vite, il y a quatre types de méthodes qui permettent, enfin cinq méthodes, qui ont permis de se dire est-ce que finalement le score qu'on récolte reflète bien quoi ? La qualité des enseignements. Si ça reflète la sympathie de l'enseignant, si ça reflète est-ce que c'est bien, les étudiants sont contents parce que c'est un cours qui se donne le lundi à 10h, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop fatigués, ils sont juste bien là. Si ça reflète la satisfaction de l'étudiant, on a bien ri à ce cours, le prof était sympa. Si ça reflète le fait que l'enseignant ait donné des points à la fin du cours. Si ça reflète l'enseignant qui ne donne pas trop de matière. Si ça reflète l'enseignant qui donne les points à tout le monde à la fin de l'année comme à l'école des fans, on a un vrai problème avec l'évaluation des enseignements par les étudiants, si c'est ça que ça reflète. D'accord ? Donc il y a des études qui portent là-dessus. La première, c'était les approches multi-traits, multi-méthodes. En gros, on prend la mesure issue de l'évaluation des enseignements par les étudiants et on la confronte à d'autres mesures de la qualité de l'enseignement. La vie des pairs, la vie des alumni, l'auto-évaluation de l'enseignant. Et on voit qu'il y a une corrélation. Modérée, mais il y a une corrélation. Le problème, quand on fait ça, c'est que toutes ces autres variables avec lesquelles on va confronter l'évaluation des enseignements par les étudiants, rien ne dit qu'elles sont elles-mêmes de bonne qualité. La vie des alumni, l'auto-évaluation du prof, est-ce que c'est vraiment une mesure fiable de la qualité des enseignements ? Bof, bof. Alors en fait, le champ qui a, notamment du côté anglo-saxon, qui a le plus entraîné de recherche de validité, c'est l'évaluation des enseignements par les étudiants. Donc on devrait plutôt faire l'inverse et se dire est-ce que l'avis des pairs est valide si on le confronte à l'évaluation des enseignements par les étudiants. Il y a eu d'autres études, les études multi-traits, multi-sections, même matériel pédagogique, groupe d'étudiants similaires tirés au hasard, hein, c'est, on répète plusieurs fois le même cours, etc. parce que la cohorte est trop grande et on veut pas... Donc on donne le même cours avec le même matériel, les mêmes questions d'examen à des étudiants en tout point similaires, sauf que l'enseignant change. Et on va regarder si l'enseignant qui obtient le meilleur score de réussite à l'examen final était celui qui était le mieux évalué par les étudiants. Et là, on a une preuve que, raisonnablement, le prof qui a le mieux transmis la matière, qui a été le prof de meilleure qualité, puisqu'il a suscité le plus d'apprentissage, est un prof donc, de qualité, que l'évaluation des enseignements le montre. En fait, c'est le cas. Donc, dans ces études-là, les enseignants qui susciter les meilleurs apprentissages étaient aussi ceux qui étaient le mieux évalués. Donc jusque-là, tout allait bien, on pensait vraiment que la mesure était d'une grande qualité. Et puis on a eu les études de laboratoire. Et celles-là ont fait un peu peur dans le domaine. Si vous voulez vous faire peur, vous lisez l'étude du Dr Fox, l'étude de William et Secchi, l'étude d'Ambadi et Rosenthal. Le Dr Fox est un gars qui vient donner cours à des étudiants de premier bac en mathématiques. Son cours est bourré d'erreurs. C'est un acteur, en fait, qui donne cours, et les étudiants ont adoré le cours. Et puis, évidemment, Naftali Noël, ils disent, vous voyez, l'évaluation des enseignements, il suffit qu'on soit un bon acteur, et même si on fournit des éléments de mauvaise qualité, on sera bien évalué. Bon, l'évaluation des enseignements, c'est quand même autre chose que la première performance chez des étudiants de premier bac qui arrivent à l'université, qui sont tous stressés et qui sont contents de voir un prestigieux orateur. Il y a tout le matériel qui est évalué, ça se fait plus tard dans le cours. Et puis surtout, il y a d'autres études qui sont venues contrecarrer cet élément-là, mais ça fait quand même un tout petit peu peur et ça fait beaucoup de bruit à l'époque. Donc c'est aussi pour ça qu'on est parfois un peu inquiet sur l'évaluation des enseignements par les étudiants. William et Sekchi, c'est la même chose. William est un prof, Sekchi est un pédagogue. William donne un cours sans emphase, il parle de manière un peu monocorde, un peu comme ça. Et puis il donne un autre cours où il a plein d'emphase, etc. Il voit qu'effectivement les étudiants préfèrent le deuxième cours, mais par contre il n'y a pas de résultat flagrant sur la différence dans l'évaluation finale entre les deux cohortes. Donc il dit, ben voilà, l'évaluation n'est pas corrélée à la qualité de l'enseignement. Alors, là aussi, il y a eu des études qui ont contredit ça, sachant que à un moment donné, ces études de laboratoire ont amené à la réflexion suivante, c'est quoi un biais ? Quand est-ce qu'on peut parler de biais en termes d'évaluation des enseignements par les étudiants ? Eh bien, on peut parler de biais si et seulement si des éléments qui ne rentrent pas en compte dans les résultats de l'étudiant, donc qui ne favorisent pas les apprentissages des étudiants, sont par eux bien évalués. Si j'amène de la nourriture en classe, d'accord, vous avez tous un cornet de glace, et puis je vais être super fun, je vais raconter des petites blagues, et puis je vais vous faire vraiment super interagir, peut-être que mon évaluation sera meilleure. Mais est-ce que c'est un biais ? Ce ne sera un biais que si en même temps, vos apprentissages ne gagnent pas. Parce que si vos apprentissages gagnent avec votre satisfaction, ça veut juste dire que c'est des bonnes pratiques pédagogiques. Vous voyez ? Donc à un moment donné, toutes ces études ont quand même été un peu cassées pour cette raison-là, parce qu'au début, dès qu'il y avait un biais, c'était quand on avait une variable qu'on n'imaginait pas nécessairement influencer l'enseignement, qui influençait la qualité des enseignements, on dit « Oh là, il y a biais !» Puis on regardait, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et ce qui nous permet de dire qu'il n'y en a pas tant que ça, c'est qu'il y a eu des vraies études sur les biais. Et on a analysé les biais liés à l'enseignant, est-ce que sa personnalité, est-ce que son genre, est-ce que son statut, un vieil enseignant, un jeune enseignant, un jeune qui a eu plein de promotions, quelqu'un qui débute dans la carrière, son ethnie. Et aux États-Unis, vraiment, tout ça a été creusé dans tous les sens. On s'est intéressé aussi aux biais liés aux étudiants, même chose, les filles évaluent plus difficilement que les garçons, les cours à options, pas les cours à options, enfin il y a tout un tas d'études qui ont été faites là-dessus, et les biais liés aux variables contextuelles, la taille de l'auditoire, la matière enseignée, etc. Et en fait, il y a peu d'influence. Il y a une influence sur la motivation, c'est-à-dire que les cours à options vont être choisis à options, seront un peu mieux évalués que les cours qui sont obligatoires, donc ça c'est concret. Les cours en sciences humaines seront un peu mieux évalués que les cours en sciences dures. Voilà, il faut le savoir, mais grosso modo, c'est tout. Alors parfois, il y a des machins un peu curvilinéaires, certains items qui sont des items de soutien cognitif. Par exemple, l'enseignant répond à vos questions, l'enseignant est disponible pour répondre à vos questions. Cet item-là en particulier, les étudiants attendent plus de performance chez les filles, côté maternel, enfin je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on sait qu'à performance égale, les filles vont être moins bien évaluées que les garçons sur cet item précis. Mais pas sur l'ensemble des items, juste sur celui-là. Donc il y a des petits effets comme ça, mais franchement, quand on a analysé toute cette littérature, on se dit, ok, si le but c'est de jouer sur une échelle en 6 points en disant celui-là a 5,4, celui-là a 5,3, donc celui-là est meilleur parce qu'il a 5,4, on oublie. La qualité de la mesure ne permet pas de dire quelque chose avec cette force-là. Mais de dire quelqu'un qui aurait 4 par rapport à quelqu'un qui aurait 5 sur cette échelle, mais non, mais c'est à cause d'une erreur de mesure, là franchement, je crois qu'on ne peut pas se le permettre, que la mesure issue des étudiants est suffisamment valide et fidèle que pour pouvoir s'appuyer dessus pour avoir un discours de « il faut que tu fasses des efforts ou c'est très bien mon ami ». Elle est suffisamment de bonne qualité pour ça. À condition qu'il y ait un taux de réponse relativement important de la part des étudiants. Mais là aussi, on n'est pas dans la recherche fondamentale. Donc il ne faut pas que vous regardiez un peu les résultats statistiques, l'échantillon dont vous avez besoin. En règle générale, si vous regardez un article que j'ai écrit dans Éducation et Formation, qui est une revue belge, pour laquelle il y a un numéro spécial sur l'évaluation des enseignements par les étudiants qui est sorti l'année passée, et vous allez lire mon article, j'en parle, alors j'ai plus les chiffres en tête, je vous l'avoue, mais grosso modo sur un auditoire de 500 personnes, si vous en avez déjà 100 des réponses, vous avez déjà une information qui est, peut être considérée comme suffisamment robuste. Évidemment, si vous avez 20 étudiants et que vous en avez 3, ce ne sera pas la même chose, là, il en faudra une dizaine, une douzaine qui peut vous... pour avoir une robustesse. Donc il y a quelque chose là qui tient la route avec une clé qu'un auteur a pu mettre en œuvre, mais il ne faut pas non plus vouloir avoir à tout prix 100% de taux de réponse. On sait qu'on n'y arrive pas, on sait que sur un questionnaire en ligne, en faisant plein d'efforts auprès des étudiants, avec les gens qui le rappellent, les profs qui le rappellent, les mises enseignantes, des affichages un peu partout, quand on arrive et qu'on arrive à stabiliser autour de 50%, c'est déjà pas mal. Mais c'est suffisant. Ok. Donc voilà pour la réponse A. La qualité de la mesure n'est pas aussi piètre que ce qu'on peut l'imaginer. On peut avoir des représentations personnelles qui ne collent pas aux résultats de recherche. Ça a été là aussi décrit dans la littérature. Vous pouvez, dans une certaine mesure, faire confiance à la qualité de la mesure. Pas encore une fois pour jouer sur des dixièmes de points, mais grosso modo, si à un moment donné vous avez une évaluation et que tous vos items sont plutôt dans le rouge, vous avez intérêt quand même à vous inquiéter. Et ils sont tous dans le vert, vous pouvez être résolument rassuré quant à la qualité de votre enseignement. Alors, pour les autres, il y a quatre sources d'informations que je vous conseille vraiment de prendre. Quand votre but n'est pas du tout d'avoir une mesure forte, mais d'avoir suffisamment d'informations de vous pour améliorer la qualité de vos enseignements. La première, c'est vos étudiants. Témoins constants de ce que vous faites, ils savent si, grâce à vous, ils ont appris quelque chose ou pas. Donc, vous ne pouvez pas vous en dégager. Vos collègues, est-ce qu'ils perçoivent ? Vous-même, en tant qu'apprenant, et la littérature scientifique dans le domaine de la pédagogie. Alors, on va les passer en revue à un. Les étudiants, vous pouvez le faire de manière asynchrone ou synchrone. D'accord ? Asynchrone, c'est, vous n'allez pas réguler là tout de suite, vous allez prendre de l'information et la semaine après, vous reviendrez en y ayant réfléchi. Il y a une technique qui s'appelle le « one minute paper ». Le one minute paper, vous demandez à votre étudiant, à vos étudiants, on pourrait le faire maintenant, hein, retenez un message fort de l'exposé que je viens de vous faire. Et l'étudiant écrit. Ça prend 2 secondes à l'étudiant, vous reprenez les feuilles, vous analysez pas, quand vous êtes chez vous, vous regardez, et puis vous revenez à vos étudiants, vous leur faites un petit, voilà ce que j'ai noté que vous aviez retenu, voilà ce que j'ai retenu que vous n'avez pas retenu, et ça m'embête parce que c'était un des objectifs importants. Mais donc c'est le one minute paper. Ça prend pas beaucoup de temps, sauf un peu de débriefing, hein. Si vous avez 500 étudiants, ben, il faut lire tout ça, mais grosso modo, c'est quelque chose qui marche assez bien. Vous pouvez le faire avant le cours, qu'est-ce que vous avez, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, c'est quoi les questions que vous posez, etc. Ou après le cours, c'est quoi que vous avez retenu, quels sont les concepts qui restent flous, etc., etc. Les concepts qui restent flous, en fait, c'est aussi le moodiness point, donc le point un peu boueux. C'est une question qui est souvent vachement importante et intéressante quand on la débriefe, c'est quoi l'élément de matière qui pour vous était le moins clair de mon exposé ? Parce que ce qu'il a appris, c'est bien, mais en général, vous savez sur quoi vous êtes bon. Mais il y a parfois des éléments où, et peut-être plusieurs dans votre cours, vous n'êtes pas très très sûr que l'étudiant a compris. Vous avez vu qu'il ne répondait pas dans le regard, vous avez vu qu'ils avaient l'air ailleurs, vous-même, vous n'étiez pas tout à fait sûr d'avoir utilisé les bons termes. Donc le poids un peu, c'est quoi la difficulté de compréhension que vous avez eue ? Quelle est l'idée la plus confuse qui a été exprimée aujourd'hui ? C'est une information précieuse, surtout que vous pouvez, le cours suivant, revenir sur cette idée-là. Alors, toujours dans cette prise d'information, vous pouvez la structurer un tout petit peu, plutôt que de dire c'est quoi l'élément positif ou c'est quoi les difficultés, avec faire une espèce d'audit d'apprentissage qui serait que sais-je aujourd'hui suite à un cours que j'ignorais hier, que sais-je faire aujourd'hui que je ne savais pas faire hier, que pourrais-je enseigner à d'autres aujourd'hui que je n'aurais pas pu enseigner hier, etc. Donc c'est des éléments, si vous voulez, pour apporter des questions pertinentes qui vont vous permettre de récolter une information intéressante à la suite de vos cours. Vous avez aussi des choses qui sont plus issues de la littérature, hein, donc des process qui sont issus de la littérature. Le cycle, Critical Incident Questionnaire, dans ce type-là. À quel moment du cours vous êtes-vous senti le plus engagé dans ce qui se passait ? Quand est-ce que vraiment il y avait quelque chose de cognitif qui se faisait chez vous ? À quel moment du cours vous êtes-vous le plus senti largué ? Vous ne comprenez plus, etc. Quelle intervention faite par un enseignant ou un des pairs a été le plus utile et le plus éclairant pour vous ? Même chose avec le moins utile et le moins. Je vous enverrai le PowerPoint, ne notez pas nécessairement, mais voilà, c'est la possibilité d'aller structurer la prise d'information auprès des étudiants. Un autre truc qui est assez sympa, si vous avez envie de jouer ce jeu-là, c'est la lettre au successeur. Et donc, vous dites à vos étudiants, au bout des 30 heures de cours que vous leur donnez, peut-être même à la fin de l'examen, qu'est-ce que vous diriez sur mon cours aux étudiants qui vont arriver ? Fais gaffe, le prof, il pose des questions de détail. Fais gaffe, cette boîte-là de la matière, il est super complexe. Et si tu ne t'accroches pas, ça n'ira pas. Donc, vous dites à vos étudiants, écrivez un peu une lettre à votre successeur. Et puis vous lisez tout ça, évidemment. Vous en faites un condensé et pourquoi pas la présenter en début de cours au groupe qui va arriver. Alors, de manière synchrone, on en a déjà vu des outils. On a vu Answer Garden qui permet de poser des questions à vos étudiants. Twitter est un bon outil aussi qui vous permet un mur de tweets où l'étudiant pose ses questions pendant votre cours. On peut l'expérimenter. C'est pas toujours facile parce qu'il faut à la fois donner cours et aller jeter un œil sur le mur de tweets. Mais je connais des gens qui le font et qui en sont assez contents. Plickr, c'est les boîtiers de vote électronique. Socrative, qui est un autre outil qui ressemble un peu à Outclap, qui lui aussi est gratuit, qui permet donc les boîtiers de vote, vous distribuez les boîtiers de vote, mais il faut avoir le dispositif. Les gens votent comme vous avez fait tout à l'heure avec Outclap. Outclap et Socrative permettent de le faire en ligne, mais avec des outils qu'ont les étudiants. Et Plickers, c'est les petites fiches que je vous ai données. Donc voilà, c'est des manières de prendre de l'information synchrone, c'est ce qui est en train de se passer. Ça va, vous suivez toujours ? Hop, on montre. Oui, non, je ne vous posais pas la question. on pose la question, les gens votent, et puis on voit s'ils sont largués ou pas. Avec les boîtiers de vote, à un moment donné, ce que je faisais, je mettais le système, et avec le système à l'époque, on voyait l'étudiant quand il avait voté. Et j'ai dit, ne votez pas maintenant, quand vous êtes largué, vous votez. Et puis de temps en temps, on voyait un gars qui votait, bon, si c'était qu'un gars, ça allait. Puis à un moment donné, on voyait ta-ta-ta-ta-ta, et puis on voyait. Là, je disais, bon, stop, on fait une pause, on revient sur la matière, je vois que vous êtes largué, je rebootais le système et je revenais sur le point. Donc, c'était vraiment une manière interactive, directe, de prendre la température de ce qui se passait au niveau de l'enseignement. Pour ceux que ça intéresse, on a développé avec Nathalie Younes les différents usages des boîtiers de vote électroniques ou de ce genre d'outils interactifs. Je vous enverrai le PowerPoint et vous pourrez l'analyser. Voilà, j'ai déjà vachement dépensé le temps imparti, donc je vais avancer. Les collègues comme source d'information, donc on a vu les étudiants, on passe aux collègues. L'ami bienveillant, j'en ai parlé tout à l'heure, le collègue en qui vous avez confiance et auquel vous demandez de venir à un moment donné contribuer à assister à un de vos cours ou analyser des traces de votre cours. On peut avoir des groupes de réflexion entre enseignants, c'est ce que je vous disais, tous les profs qui donnent la physique dans une université se mettent ensemble et commencent à réfléchir, commencent à parler des incidents critiques, c'est de quoi les problèmes qu'on a. En fait, et c'est pour ça que je suis content que vous soyez tous là aujourd'hui et puis que je trouve que c'est vraiment pertinent aussi de vous faire travailler avec des ateliers et en demi-journée. Les possibilités qu'on a de se rencontrer dans une université et de parler d'enseignement, ils ne sont pas si fréquents que ça. Donc on porte des problèmes, parfois émotionnellement, parfois cognitivement. On porte des problèmes que les autres rencontrent aussi sans qu'on le sache et on n'a jamais l'occasion d'en parler avec eux. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc ces groupes de réflexion sont vraiment des outils intéressants. Je vous passe les autres outils parce que je n'ai pas trop le temps et qu'ils sont plus difficiles à mettre en œuvre. Soi-même en tant qu'apprenant, c'est absolument fondamental. À chaque fois que j'assiste à une formation, je suis frustré. Et puis, je suis ravi. Et ce n'est pas les mêmes moments qui m'ont frustré ou qui m'ont ravi. Je suis frustré parce que j'ai rien vu à l'écran. Le PowerPoint était tout petit, ça m'énerve. Je suis ravi parce que le prof, à un moment donné, a suscité une réflexion où j'ai fait « waouh ». Eh bien, c'est intéressant d'analyser ça. Vous, en tant qu'apprenant, qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce qui vous motive? Voilà. Je vous prends un exemple. Bonne pratique, super pratique. À un moment donné, je virais les tables et je faisais un grand cercle avec les étudiants. Puis je me mettais au milieu du cercle et je me disais « c'est génial ». Je suis dans le groupe, on va pouvoir discuter, on va pouvoir libérer la parole va fuser, on est tous en cercle. Donc moi, de dynamicien de groupe un tout petit peu, j'adorais ça. Puis un jour, je me suis retrouvé à une formation que je n'avais pas trop envie d'aller. Premier truc du prof, vous vous mettez en rond. Et je me suis dit, mais merde, encore en rond, je ne vais pas pouvoir me planquer derrière mon ordinateur, je vais être obligé de faire semblant. Et je me suis dit, mais enfin, tu te rends compte que c'est toi-même, c'est ce que tu fais avec tes étudiants, quoi. Avec des assumptions, c'est-à-dire des croyances fausses ou à vérifier, c'est-à-dire avec la croyance que la parole va se libérer. Puis du coup, je me dis, c'est quand même bizarre. Donc du coup, j'ai une partie de mon cerveau qui écoute ce qui est en train de se passer, mais aussi qui analyse ce qui est en train de se passer. Et je dis, ben merde, c'est toujours le troisième qui parle. Et les 12 autres, ils sont en train de regarder leurs pieds constamment. Ah merde! Et donc on prend des choses par rapport à ça. Donc je vous incite, si vous, demain vous suivez des cours de photo, de natation, des informations de ce type-ci, réfléchissez bien à ce qui vous percute, ce qui ne vous percute pas du tout, parce qu'il y a des fortes chances que vos apprenants soient grosso modo la même chose. Ou en tout cas, ça vaut la peine de vous dire, est-ce que moi, dans mon enseignement, il n'y a pas des trucs qui m'énervent et que je réplique et que je devrais changer. Donc vous-même, en tant qu'apprenant, c'est vachement important. Et puis, toute la littérature, il y a plein de littérature. Alors, vous ne le savez peut-être pas, il y a toute une littérature qui s'appelle le SOTL, Scholarship of Teaching and Learning, où les profs, par exemple, il y en a dans le domaine de la physique, il y en a dans le domaine de la bio, et bien c'est des profs de physique à l'université qui ont mis en place une innovation qu'ils trouvaient pertinente par rapport à un concept avec leurs étudiants. Ils ont pris des données pour voir si ça avait un effet sur les apprentissages, et puis si oui, ils ont publié ça. Ce n'est pas des articles scientifiques. L'échantillon, c'est le groupe, c'est la classe. On ne sait pas si dans ce contexte-là, ça marche, si dans un autre contexte, ça ne marcherait pas. Mais c'est quand même publié. Et ça peut vraiment, à un moment donné, instiguer quelque chose chez vous d'intéressant en vous disant « Ah tiens, lui, il a fait ça et ça avait l'air de marcher. Mais pourquoi pas ? Et qu'est-ce qui m'empêcherait, moi, dans mon contexte, de répliquer ça ?» Donc, il y a une littérature. Je ne vous dis pas de lire la littérature en pédagogie ou en évaluation qui est celle que moi, je lis, mais il y a une littérature notamment de type SOTL, qui est vraiment une littérature qui devrait vous inspirer. Et donc, voilà, ça c'est aussi quelque chose que je vous conseille de faire. Et je passe le reste, et puis si on attend, on évaluera la conférence. On va peut-être le faire avec vous clap, si vous voulez, pendant que vous réfléchissez peut-être à des questions que vous voudriez poser. Il ne reste pas des tonnes de temps, j'ai lâchement débordé sur le sujet. Et encore, si vous avez vu tous les PowerPoints que je vous ai passés, tous les slides que je vous ai passés, vous blêmiriez. Mais voilà, donc allez-y, posez vos questions.